Bon, bonsoir à tous. Merci d'être là, comme d'habitude. Je remercie aussi les représentants des écoles doctorales d'être présents. C'est un séminaire qu'on organise en partenariat avec eux. On a quelques conférences. Le séminaire s'appelle « Le jalon pour une histoire des sciences de l'homme ». Nous tentons donc de faire de l'histoire des sciences de l'homme depuis quelques années. Et je pense que nous réussissons pas mal. Je suis assez impressionnée par le fait que M. Jacob soit là. Bon, quelquefois, il y a des moments comme ça dans les conférences, parce que d'une part, je vous remercie d'avoir accepté tout de suite de venir chez nous. Je sais que vous êtes très occupé. M. Ducœur aussi m'avait donné vos coordonnées. Donc, comme vous avez des amis qui sont venus chez nous, ça n'a pas été très difficile de vous inviter, mais vous l'avez accepté tout de suite malgré votre temps de travail. Vous êtes très occupé. Et vous avez dit tout à l'heure aussi à Didier Moreau que vous étiez très intéressé par le fait de parler de votre travail devant un public autre qu'un public universitaire, enfin un public plutôt transdisciplinaire. Ici, il y a des étudiants, il y a le public qui vient assister d'habitude à nos conférences, il y a les professeurs d'université. Donc, je vois que c'est une démarche que vous aimez faire et c'est tout à fait dans la mission de nos centres de culture scientifique. Donc, nous vous en remercions. Je vais vous présenter, comme vous me l'avez indiqué, je vous ai demandé les fameux 10 lignes parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc, je demande aux conférenciers de proposer un petit CV. Comme ça, moi, je ne me trompe pas. Quelquefois, il arrive que je lise très mal. Donc là, je vous prie de m'en excuser, monsieur. Donc, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. Vous êtes historien de l'Antiquité classique et vos travaux ont porté notamment sur la cartographie, la géographie et l'ethnographie en Grèce ancienne, ainsi que sur la bibliothèque d'Alexandrie et son contexte culturel et intellectuel. Vous êtes intéressé en particulier aux milieux lettrés et à leurs pratiques savantes dans le monde gréco-romain. Depuis une douzaine d'années, votre travail a pris une dimension comparatiste et interdisciplinaire, portant sur les pratiques lettrées, usage des livres, lecture, écriture, puis sur les pratiques et les traditions de savoir. En animant un réseau international de chercheurs, vous avez dirigé plusieurs publications collectives, les volumes d'Es Alessandris 1 et 2, Bibliothèque nationale, 2001-2003, et plus récemment, ces superbes ouvrages qui sont là, que vous pourrez consulter, mais vous me les rendez. Les deux premiers volumes ont été publiés par Albin Michel, donc il s'agit de la série des lieux de savoir, espaces et communautés 2007 et les mains d'intellectuels 2011, c'est absolument superbe, c'est un travail vraiment superbe. Et donc vous allez nous parler ce soir, monsieur Jacob, de la transmission des savoirs en une heure malheureusement, pour une anthropologie historique. En tout cas, merci de la part de tous d'être à l'Espace Mendès France de Poitiers ce soir, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre accueil. Est-ce que le micro marche ? Oui. D'accord, il faut parler contre. Merci beaucoup pour votre accueil et je suis très heureux d'être ici, sincèrement, parce que les chercheurs n'ont pas vocation à rester enfermés dans leur laboratoire. Et, enfin, il est important de partager, de diffuser, de se soumettre aussi à des questionnements et à des regards qui ne sont pas forcément ceux des spécialistes, qui peuvent être ceux des spécialistes, mais aussi des citoyens, des étudiants et du monde de la cité. Ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter un petit peu le cheminement intellectuel qui m'a conduit vers ce projet, d'essayer peut-être de formuler quelques-unes des difficultés, des questions que je me pose, que ce projet pose. Et je terminerai en parlant des pistes de travail qui sont les nôtres actuellement. J'hésiterai continuellement entre le « je » et le « nous », puisque ce sont des volumes collectifs et il y a une cinquantaine de chercheurs et d'auteurs dans chaque volume. Donc, ce sera à la fois une forme de bilan d'étape, puisqu'il y a deux volumes publiés et qu'il en reste deux à réaliser. Donc, il y aura aussi un aspect prospectif. Et je pense que parmi vous, il y a sans doute des étudiants, des professeurs dans le domaine des sciences dures, comme on dit, les sciences humaines étant considérées comme les sciences molles parfois. Donc voilà, je vais soumettre un peu ce trajet intellectuel, ce trajet de questionnement à votre critique et à vos questions. Donc la question d'ensemble que je me pose, c'est que pourrait être une anthropologie historique des savoirs humains qui considérerait moins les contenus de ces savoirs que l'ensemble des pratiques qui les produisent, qui les communiquent et qui les transmettent. Et seconde question, comment peut-on restituer aux savoirs, dans leur diversité, leur dimension pratique, vécue, matérielle, sociale, comment peut-on rendre compte de la singularité et de la richesse de ces activités et parfois des modes de vie de leurs acteurs? Donc ce sont des questions extrêmement générales, extrêmement fondamentales, qui me poursuivent depuis des années. Un chercheur court parfois après ces objets, mais il est parfois poursuivi par des questions qui n'arrêtent pas de le rattraper régulièrement. Et c'est un petit peu cette interrogation fondamentale sur la nature des savoirs humains qui m'a conduit à cette entreprise collective en me disant que parmi les 50 auteurs de chaque volume, il y en aurait peut-être certains qui auraient les réponses. Alors pourquoi un tel projet? Comment un tel projet a-t-il pu naître à la fois dans sa mégalomanie, son imprudence, son utopie et sa naïveté? L'une des clés se trouve sans doute dans mon parcours, dans mon parcours personnel. Je suis en effet un helléniste, un historien de l'Antiquité, et mes premières recherches ont porté sur une culture disparue à travers la médiation des textes et des images qui nous sont parvenus. Donc pour moi, travailler sur la bibliothèque des textes grecs et latins, c'était affronter une distance creusée par une langue, non seulement dans sa structure grammaticale, mais aussi dans ses catégories sémantiques. C'est-à-dire, c'était l'impression d'explorer un univers fascinant et marqué par une certaine altérité. C'était aussi pour moi me situer dans une tradition savante remontant à Byzance, puisque finalement il y a très très peu de textes grecs ou même de phrases grecques qui n'aient pas été déjà commentées, expliquées, paraphrasées par toute une tradition savante qui continue aujourd'hui. Il y a l'histoire, l'herméneutique littéraire, la philosophie, l'histoire des sciences. Et c'est vrai qu'en étant un antiquisant, je me suis retrouvé donc dans un univers où il y avait des dictionnaires, des encyclopédies, des commentaires, bref, une bibliographie proliférante qui se déployait entre moi et ces objets sur lesquels je voulais travailler. Donc la formation que j'avais reçue à l'université, parce que dans cette époque très très lointaine, le grec et le latin étaient encore largement enseignés, même au lycée et à l'université, ce n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Donc cette formation m'avait doté de techniques littéraires, la traduction, le commentaire, l'explication. Et ce qui paraissait évident, c'est que ces techniques pouvaient s'appliquer à n'importe quel texte, qu'il s'agisse d'un poème de Baudelaire, d'une page de Saint-Simon ou d'une page d'Hérodote ou de Sophocle. Il suffisait en fait de reproduire des protocoles bien établis, des types d'exercices que l'on nous apprenait à l'école. Donc ma décision de devenir un helléniste remonte, je crois, à la première année où j'ai commencé à travailler sur cette langue et cette culture, c'est-à-dire à l'époque c'était la troisième ou peut-être même la quatrième. Donc on avait la chance d'avoir des cursus qui ouvraient ces possibilités, tandis qu'aujourd'hui c'est pratiquement impossible, et en tout cas on ne peut plus faire ni grec, on ne peut plus faire grec et latin à la fois, il faut choisir. Et donc, j'étais totalement fasciné par la découverte de ce monde, de la beauté de cette langue, de cette littérature et la magnificence de cette civilisation antique que l'on considérait un peu comme les racines de notre propre culture, en essayant de retrouver effectivement l'identité, les sources de la rationalité européenne, les sources d'un modèle politique, du modèle de la cité qui est le nôtre, etc. Toutefois, je me suis rapidement éloigné de cette approche identitaire, généalogique, spéculaire, en quelque sorte, de la culture grecque, une approche qui constituait alors le modèle académique dominant. Et c'est sans doute parce que j'avais le sentiment que la routine des exercices universitaires et des commentaires académiques laissait filer le sens des textes un peu comme du sable entre les doigts, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de choses qui échappaient. Et ce que l'on gardait, c'était finalement le même, c'était l'éternel humain, les valeurs éternelles entre les Grecs et nous. Et sans doute aussi parce qu'à cette époque-là, donc dans les années 80, il y avait une petite maison d'édition, les éditions François Maspero, qui commençait à diffuser des livres de petit format, avec de jolies couvertures de couleurs. Et c'est dans cette collection que j'ai eu un jour un véritable choc intellectuel en lisant Jean-Pierre Vernant, Mythes et pensées chez les Grecs, et qui était pour moi une porte ouverte vers un monde tout à fait insoupçonné. Donc pour l'étudiant que j'étais, les écrits de Jean-Pierre Vernant, qui était professeur au Collège de France, professeur sur la religion grecque, mais aussi les écrits de Marcel Détienne ou de Pierre Vidal-Naquet, dont vous connaissez peut-être les noms. Pierre Vidal-Naquet a été un historien très, très polyvalent, aussi bien helléniste qu'historien de l'affaire Dreyfus et combattant inlassable de ceux qui nient la réalité de la Shoah. Donc pour moi, les écrits de ces professeurs furent comme des fils d'Ariane qui m'ont permis de sortir de ce monde des études classiques dans sa version la plus académique. En fait, j'ai découvert une approche totalement novatrice qui affirmait l'altérité fondamentale de l'Antiquité, la nécessité d'un effort intellectuel pour aller au-delà de l'impression de l'identité et rentrer dans les profondeurs d'une civilisation, d'une société, d'une culture qui était complètement différente des nôtres. C'est-à-dire que ce n'était plus le sentiment de l'identité, de la permanence, de l'éternité, mais c'était le sentiment de l'altérité et le sentiment de pouvoir apprendre des choses fondamentales de cet effort pour rentrer dans des catégories intellectuelles qui n'étaient pas les nôtres. Donc je découvrais un univers de pensée, une société différente, un monde où l'homme lui-même était différent dans son organisation psychologique, dans sa vie sociale, dans ses pratiques, dans ses croyances, et qu'il s'agisse de la raison de l'homme grec, des liens entre mythe et pensée, entre mythe et tragédie, mythe et société, ou encore du sacrifice, de la guerre, de la divination, les travaux de cette école de Paris autour de Vernon, d'Étienne et Vidal-Naquet rendaient à cette civilisation grecque son caractère tout à fait passionnant, ses différences, sa spécificité. Donc j'ai appris de ces maîtres l'art de la problématisation et de la comparaison. J'ai appris une manière de lire les textes attentive au jeu d'éco-sémantique et aux métaphores. J'ai appris également le plaisir de travailler à plusieurs, en groupe, en tribu, pourrait-on dire parfois, et en réunissant des collectifs de chercheurs, on arrive parfois à soulever des montagnes. J'ai aussi pris la mesure de cette bibliothèque de textes grecs et latins conservés, allant bien au-delà des anthologies scolaires et des grands auteurs que l'on lisait au lycée ou à la Sorbonne, les fragments des historiens, les fragments des philosophes, les lexiques, les traités encyclopédiques et scientifiques, les commentaires des grandes œuvres littéraires, bref, tout un univers inconnu. Et en mettant en relation ces textes, on pouvait déployer toute la cartographie des savoirs antiques sur les plantes ou sur les pierres, sur les animaux ou sur les étoiles, sur les éléments naturels fondamentaux ou sur les paysages humains. J'ai cependant vite considéré ou repéré un manque, un angle mort dans ces approches, pour fructueuses qu'elles aient été, c'est-à-dire que les textes étaient considérés comme des sources documentaires, comme des témoignages dont l'assemblage permettait de redéployer des systèmes de représentation, de redéployer l'architecture des savoirs grecs sur le monde, dont on pouvait mesurer toute l'emprise sur la culture ancienne. Mais je m'interrogeais néanmoins sur les protocoles de lecture mis en œuvre dans cette démarche structuraliste qui privilégiait l'information, les données, le sens, plus que les supports, les formes et les modalités d'énonciation. Mon projet donc a été d'explorer ces mondes savants, ceux des voyageurs et des géographes, ceux des naturalistes et des lettrés alexandrins, en me posant des questions tout à fait basiques. Comment travaillaient-ils? Quelles sources utilisaient-ils et comment? Quelles étaient leurs techniques de lecture et d'écriture? Quel était leur outillage intellectuel pour résoudre des difficultés, poser des problèmes, assurer un savoir? Donc ces questionnements, ces questions fondamentales, je les ai appliquées à différents auteurs, à différents savoirs, et je les ai aussi enrichies selon deux perspectives complémentaires. La première perspective, elle était réflexive et portée sur mes propres pratiques de lecture, d'écriture et de recherche. Ce travail étrange d'un chercheur en sciences humaines qui consacre son temps, sa vie, à apprendre, à réfléchir, à construire, à lire et à écrire, à acquérir et à produire du savoir et à essayer de le communiquer. La seconde perspective d'élargissement a été comparative et elle s'est inscrite dans un travail collectif fait de dialogues, de réflexions croisées, de lectures et d'écoutes partagées entre spécialistes de différentes cultures et traditions savantes, la Mésopotamie antique, l'Égypte, la Chine, l'Inde, la tradition européenne, l'islam, la tradition juive, l'Afrique noire, etc. Donc réflexivité sur mes propres pratiques, comparatisme avec une tentative pour décentrer et ouvrir l'interrogation vers des espaces périphériques par rapport à la centralité grecque. Ces deux perspectives m'ont apporté un éclairage complètement dépaysant, nouveau, expérimental, sur les textes et les situations historiques qui étaient au cœur de mes recherches. Sans doute s'agissait-il pour moi d'introduire de l'étrangeté dans le travail savant lui-même, celui des érudits antiques et le mien, avec mes livres, ma bibliothèque, mon ordinateur et mes fichiers. Donc les hypothèses de travail à l'origine des lieux de savoir ont été de cette manière élaborées progressivement au fil de séminaires, de workshops, de colloques, comme ceux qui ont été organisés à Alexandrie et à Paris en l'an 2000, portant sur le travail lettré, sur la construction éditoriale et philologique des textes, comme sur les opérations de la lecture et du commentaire. Ce qui était ainsi expérimenté était un comparatisme ouvert, expérimental, mobilisant des spécialistes de différents champs culturels, de différentes époques, et faisant converger des questionnements théoriques à partir d'études de cas complètement empiriques. C'est à ce moment-là qu'est né le projet des lieux de savoir et que ce projet, d'abord travaillé en séminaire, est devenu un projet éditorial. Alors donc, je voudrais aujourd'hui vous soumettre des réflexions qui s'inscrivent à la charnière de ce projet, puisque deux volumes ont été édités. Il nous en reste deux autres à réaliser. C'est le moment où on peut se retourner sur le chemin parcouru, non pas pour en être fier, mais simplement pour se dire qu'effectivement du chemin a été parcouru et réfléchir sur les obstacles rencontrés. Et cette pause est peut-être également judicieuse pour changer certaines directions ou en tout cas se munir de nouveaux outils pour le parcours à accomplir. Alors la première question sur laquelle je voudrais réfléchir, c'est pourquoi lieu de savoir et pas lieu de science? Et pourquoi lieu de savoir et pas histoire des savoirs? Donc en choisissant le terme savoir, nous avons opté pour un champ beaucoup plus large que celui des sciences, un champ qui engloberait les différents savoirs humains, les humanités, les sciences sociales, les techniques, mais les savoirs spirituels également, ainsi que bien sûr que les sciences telles que nous les définissons aujourd'hui. Et par savoir, nous entendons également aussi bien les savoirs des sociétés lettrées que les savoirs des sociétés sans écriture. L'intérêt de ce terme savoir, lieu de savoir donc au singulier, l'intérêt de ce terme englobant est de ne pas imposer d'emblée un partage, un découpage, une identité disciplinaire, et de ne pas présupposer une hiérarchie entre différentes formes de savoir selon les hiérarchies en vigueur dans notre société, dans notre culture contemporaine. Donc il s'agissait de déployer le champ des savoirs humains dans toute son extension, dans toute sa complexité, en soulevant momentanément toutes les barrières et tous les cloisonnements possibles et en essayant de considérer ce champ dans sa continuité, dans sa totalité. Nous avons donc défini les savoirs d'une manière très générale, comme l'ensemble des procédures par lesquelles les membres d'une société ou d'un groupe dans cette société peuvent donner sens au monde qui les entoure, dans ses dimensions physiques et métaphysiques, visibles et invisibles, qu'il s'agisse du monde des vivants ou de la matière inerte, qu'il s'agisse du temps ou de l'espace. Donc une définition extrêmement vaste et qui peut s'appliquer à tout un ensemble de pratiques et de savoirs. Donc ces procédures par lesquelles donc des groupes humains donnent sens à tout ce qui les environne, ces procédures se matérialisent dans le langage, dans des formes discursives, des types de paroles, dans le maniement des signes et des symboles par le biais de l'écriture, du dessin, des signes, et des schémas, etc., ainsi que dans des artefacts, dans des objets, dans des instruments, et aussi dans des pratiques qui permettent d'agir sur ce monde. Et cette notion d'efficacité ou de performativité est très importante, et c'est effectivement, on entend par savoir, le savoir du médecin, du guérisseur, de l'architecte, de l'ouvrier, c'est-à-dire de tous ceux qui sont capables de créer et de construire. Donc vous voyez que cette définition très, très large ne place pas au centre de l'enquête un modèle de rationalité, une forme de technique, ni le critère de maîtrise de l'écriture, ou encore les sciences reposant sur la mathématisation et l'expérimentation. Cette définition ouvre en revanche le champ d'une anthropologie comparée des savoirs, conçue donc comme une composante fondamentale de l'expérience des sociétés humaines. Existe-t-il des sociétés humaines sans savoir ? Même le groupe humain le plus reculé dans la forêt amazonienne dispose de multiples savoirs nécessaires à sa survie, à l'organisation symbolique de son univers. Ce sont les savoirs sur les végétaux, sur les animaux, les savoirs du ciel et des sentiers, les savoirs chamaniques, les savoirs sur les traditions mythiques, etc. Donc ces savoirs humains, leurs pratiques, les rôles sociaux qu'ils distribuent, relève d'une anthropologie fondamentale, d'une étude de l'humain, au même titre que les manières de table, que les structures de la parenté, que les parures corporelles ou que les rites funéraires. Et ces différents aspects de la vie collective et individuelle, d'ailleurs, reposent eux aussi sur des savoirs partagés, acquis, formalisés par des règles implicites ou explicites, et en tout cas transmis de génération en génération. Donc on peut s'interroger sur ce qui ne relève pas des savoirs dans l'expérience humaine, dès qu'il y a langage, dès qu'il y a communication, organisation, transmission et apprentissage, des savoirs sont en jeu. Et donc une des premières questions qui est posée par notre projet, c'est qu'est-ce qui n'est pas savoir dans l'expérience humaine ? Deuxième point, deuxième question, pourquoi lieu de savoir et non pas histoire des savoirs ? Il s'agissait en fait d'échapper au modèle de l'encyclopédie ou de l'histoire continue et de ne pas poser d'emblée les questions de l'évolution, du progrès, de la finalité des savoirs. Je reconnais également que le précédent des lieux de mémoire, le grand projet historiographique dirigé par Pierre Nora, nous a donné le modèle, le concept d'un ouvrage structuré sur un plan thématique et non pas chronologique, cherchant à appréhender les modes d'inscription, de matérialisation, de fixation, non pas d'un pays ou d'une identité nationale, mais des savoirs humains, à l'échelle de toutes les cultures. Donc les lieux de savoir dessinent une topographie discontinue, c'est-à-dire il n'y a pas la continuité de l'histoire, il n'y a pas la systématicité de l'encyclopédie, ce sont des chapitres discontinus, mais néanmoins articulé et hiérarchisé, organisé en niveaux successifs et se déployant à différentes échelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par lieu de savoir? Ça peut être la page d'un livre, ou ça peut être même simplement les notes de bas de page sur cette page. Ça peut être le livre entier, ça peut être le rayonnage où se trouve ce livre, et ça peut être la bibliothèque dans laquelle se trouve ce rayonnage. C'est-à-dire qu'il y a des emboîtements topographiques où l'on peut passer du lieu le plus précis, une phrase, un paragraphe, des notes, à la page, au livre, à l'armoire où ces livres sont rangés, et à la bibliothèque tout entière, et éventuellement à l'université où cette bibliothèque, dans laquelle se trouve cette bibliothèque. C'est-à-dire qu'on a donc des échelles différentes pour appréhender les lieux de savoir selon une logique d'emboîtement. De même, la table de travail, le bureau où elle se trouve, la maison et la ville qui l'englobent. Et si on regarde bien, sur la table de travail, on voit encore tout un ensemble d'autres lieux de savoir. Il y a les fiches en Bristol, il y a l'ordinateur, il y a le livre ouvert, le dictionnaire, il y a un tirage papier imprimé d'un texte à remettre, etc. C'est-à-dire que l'ensemble de ces objets matériels, constituent autant de lieux de savoir dans lesquels le savoir est fixé, construit, transmis et communiqué. Donc, le microscope, le clavier d'un piano, le marteau de l'ouvrier sont eux aussi des lieux de savoir. Il y a des lieux de savoir matériels, d'autres qui sont vivants, comme un maître, un professeur, un poète, un devin, le praticien d'une technique. Certains lieux de savoir sont fixes, stables, permanents. Ce sont par exemple des locaux. Et d'autres sont provisoires, éphémères, constitués le temps d'une action particulière. Ce sera le geste d'un artisan en train de fabriquer un objet. Ce sera la gestuelle d'un musicien jouant du violon ou du piano. Ce seront les gestes également d'un technicien en laboratoire manipulant des échantillons. Où ce sera encore la configuration d'objets qu'un devin africain va renverser sur le sol de sa case pour faire surgir de quoi interpréter et de quoi prédire l'avenir. Donc les lieux de savoir sont à la fois des espaces architecturaux ou urbains, des inscriptions, des textes ou des discours, des instruments, des gestes, des configurations sociales, comme par exemple une réunion, une discussion, un enseignement, ou même ce cadre qui nous réunit ce soir dans le bel espace Mendès France. Donc cet accent mis sur les lieux, et pas seulement sur l'histoire des savoirs, a une autre conséquence importante. Il s'agit de privilégier une forme de micro-histoire, d'anthropologie du local et du singulier, plus que les vastes synthèses d'une encyclopédie. Et tous les auteurs de ces volumes sont un petit peu des explorateurs à qui on demande d'entrer dans des lieux du présent ou du passé, et d'essayer d'observer aussi finement que possible ce qui s'y passe, ce qui s'y produit, ce qui s'y trouve construit. Donc l'objectif est effectivement de nous attacher à des acteurs situés, engagés dans des tâches particulières, de nous attacher à leur environnement social et matériel, et d'observer les modalités de production et de partage social des savoirs à travers tous les gestes et les instruments des acteurs impliqués. Donc l'accent est mis sur une approche anthropologique de ce champ d'activité et d'expérience que sont les savoirs, dans le sens englobant que je leur donne. Et pour cela, nous avons choisi des protocoles d'observation particuliers qui correspondent au découpage thématique des volumes, puisque ces volumes ne sont pas organisés par discipline, ni par la chronologie ou par les aires culturelles. Donc le premier volume était consacré aux espaces et aux communautés, comment les acteurs des savoirs font-ils lieu et font-ils corps? Comment en viennent-ils à se fixer dans des lieux particuliers? Et comment en viennent-ils à former une communauté qui partagera les mêmes objectifs, le même projet, la même vocation? Le second volume, Les mains de l'intellect, est consacré aux opérations manuelles, graphiques, discursives, mentales, c'est-à-dire au savoir en termes de production et de construction. Le troisième volume, sur le seuil duquel nous nous trouvons, traitera des formes de validation sociale des savoirs, de leur circulation, de leur transmission, notamment à travers l'enseignement et la diffusion écrite. Et le quatrième et dernier volume réintroduira l'historicité en s'attachant aux différents modèles qui peuvent organiser les pratiques savantes d'une société à une époque donnée, ainsi qu'aux modèles spatiaux qui les organisent, c'est-à-dire en gros les savoirs de l'identité, de la réflexivité, lorsqu'une société réfléchit sur elle-même à travers ses élites savantes, les savoirs de l'altérité ou du métissage, lorsqu'une société se met à l'écoute et à l'école d'une autre société, dans le passé ou d'une société différente. Ce sont par exemple les Arabes et les Perses qui vont découvrir la science grecque via les manuscrits qui passent par Byzance, ou c'est encore la Chine contemporaine qui découvre les philosophes français, Derrida, Foucault, Ricoeur et d'autres, non pas d'après les textes français, mais d'après les traductions américaines qui ont été faites dans les années 80-90 et qui ont donné lieu à tout un courant d'études postmodernes et de cultural studies qui n'ont plus grand-chose à voir souvent avec les travaux de Derrida ou de Foucault. Mais donc à chaque fois, il y a une traduction, une appropriation, un changement. Et là, les Chinois vont découvrir la philosophie française à travers la médiation et les filtres américains. Donc identité, réflexivité, altérité et enfin universalité, c'est-à-dire des savoirs qui prétendent relâcher ou abandonner ou couper tous les liens qui peuvent les inscrire dans un lieu particulier. Alors, c'est le cas de la science moderne européenne qui repose sur la mathématisation, sur l'expérimentation et dont les résultats en principe peuvent être les mêmes en tout point de la Terre, pourvu qu'on applique les mêmes protocoles, les mêmes instruments pour les expériences. Et c'est aussi le cas des sciences humaines au début du XXe siècle, qui ont une grande prétention, une grande illusion de positivité, et qui se proposent finalement d'appliquer une méthode scientifique à tous les peuples de la Terre, à leur littérature, à leurs croyances, à leur société, à leur religion, et ce sera donc la naissance de la linguistique comparée, de la philologie, de l'histoire des religions, de l'ethnographie et de l'anthropologie. Donc ce découpage a priori en quatre volumes, avec quatre découpages quasiment stratigraphiques du territoire des savoirs, ce découpage a une fonction évidemment expérimentale, c'est-à-dire en choisissant d'appliquer ce protocole, ce questionnement, qu'est-ce que l'on va voir, qu'est-ce qui va apparaître, qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va bouger, quelles sont les configurations finalement qui vont s'avérer pertinentes et particulièrement riches pour l'interprète et pour l'historien. Donc troisième question que je veux comme ça mettre au milieu de notre débat aujourd'hui, c'est évidemment la notion de l'historicité et de l'évolution. Il est vrai que dans ces deux premières étapes de notre travail, nous avons abordé les savoirs essentiellement du point de vue de la synchronie, c'est-à-dire nous avons fait cette coupe horizontale et nous observons la cour d'un roi perse, le laboratoire, un laboratoire pharmaceutique dans une université américaine, une salle d'université à Paris au début du XXe siècle, etc. C'est-à-dire des lieux qui sont saisis dans la synchronie et finalement dans l'absence d'histoire. Alors l'histoire est quand même là par le biais de la contextualisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on situe les lieux et les pratiques de savoir par rapport à une société, par rapport à un pouvoir politique, par rapport à une technologie. Mais disons que les questions de l'évolution, du changement, de la rupture, voire de la révolution et du progrès, ne sont pas posées et ne sont pas affrontées en tant que telles. C'est-à-dire que nous travaillons aussi bien sur des savoirs qui ne vont pas se développer, vont rester à l'état embryonnaire, que sur des disciplines qui ont une tradition séculaire et qui vont donner lieu donc à des progrès, des développements tout à fait importants. Donc je dirais que l'effet positif de ce choix est de ne pas avoir introduit une visée téléologique sur les progrès des savoirs, sur le fait que certains d'entre eux donnent lieu à de riches traditions, tandis que d'autres s'éteignent rapidement, ou encore sur le fait que certains d'entre eux deviennent dominants, tandis que d'autres restent extrêmement restreints, par exemple à une langue, à un pays, à un peuple ou une religion. Donc nous nous tenons aussi à l'écart de ce courant de l'histoire globale aujourd'hui qui cherche à appréhender des mouvements de fond entre les continents, entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique. Nous nous tenons à l'égard de cette vision macro pour adopter au contraire une vision micro portant sur des lieux, sur des configurations, sur des objets, sur des gestes tout à fait situés et identifiés. Alors là, une autre question de fond, une difficulté dont je suis conscient et que je soumets aussi pour la discussion que nous pourrons avoir, c'est le risque relativiste qui mettrait sur le même plan des savoirs très différents sans prendre en compte les différences de statut, de portée, d'efficacité qui peuvent exister, par exemple, entre les pratiques d'un guérisseur africain et les pratiques d'un médecin dans un grand hôpital occidental. C'est-à-dire que comparer les deux ne vise pas à les rendre équivalents, ça ne vise pas à nier les différences, mais ça permet au contraire de construire les différences, d'identifier les différences et de les construire d'une manière tout à fait heuristique. Le guérisseur d'un village africain officie dans un environnement social particulier, dans un monde à la fois visible et invisible, selon des catégories et avec des instruments qui n'ont rien à voir avec le plateau technique d'un médecin occidental ni avec sa pharmacopée. Cependant, l'un et l'autre se voient reconnaître un certain type d'efficacité, un certain type de savoir dans les cas qu'ils traitent. Et donc la comparaison conduira à identifier et comparer des modèles différents de la causalité, du symptôme, du diagnostic, du traitement curatif, qui peut mobiliser des entités très, très diverses, comme les antibiotiques, les microbes ou les esprits des ancêtres. Donc loin de rendre tout équivalent, la comparaison mettra en évidence dans ce cas précis des sphères d'action tout à fait particulières, des lieux de savoir tout aussi cohérents l'un que l'autre, mais avec de fortes différences. Bref, on sera amené à construire et à comparer des cosmologies, des visions du monde tout à fait différentes. Donc je serais tenté de dire que l'ambition du déraisonnable du projet des lieux de savoir est d'explorer des régimes de vérité différents. Certains sont locaux, comme ceux du devin africain qui renverse des objets sur le sol et qui va lire une configuration à partir de ces objets. Donc c'est un régime de vérité local situé dans le temps et dans l'espace. D'autres régimes de vérité sont universaux, reposant sur des pratiques et des pratiques de validation, des régimes de la preuve et des modèles épistémologiques comme ceux, par exemple, de la science occidentale. Alors je passe assez vite sur un risque dont je suis conscient, qui est celui finalement de projeter sur ce continuum des pratiques et des pratiques de savoir et des lieux de savoir, des catégories qui sont peut-être à la fois anachroniques et européocentriques. C'est-à-dire, c'est vrai que l'on ne peut pas partir à la découverte de ces grandes terres inconnues sans aucune boussole, sans aucune carte et sans instrument de mesure ou de repérage. Donc il est vrai que certains des repères que nous avons adoptés pour organiser ce parcours imposent des titres et imposent peut-être des modèles de savoir déterminants, par exemple l'instrument, la table de travail, la trace, le signe, la visualisation, l'espace de la pensée, l'organisation de l'espace de la pensée, etc. Donc je suis conscient qu'effectivement, il y a peut-être là finalement un retour de la généralisation ou de la catégorisation qui vient réorganiser les études de cas et les observations empiriques. Mais je pense qu'en même temps, enfin, ce type de repérage est indispensable, et les textes même qui sont organisés sous ces entrées contribuent à faire bouger et à faire évoluer ces catégories très générales de l'espace de la pensée, de la visualisation, de l'instrument ou autre. C'est-à-dire, effectivement, entre les objets et le bâton d'un devin, le marteau d'un compagnon artisan et le microscope électronique d'une biologiste dans un laboratoire contemporain, il s'agit d'instruments à chaque fois, mais d'instruments extrêmement différents, dont la comparaison permet d'interroger précisément la catégorie la catégorie de l'instrument. Donc, pour ne pas trop m'apesantir dans cette réflexion, je voudrais simplement dire que le projet de cette anthropologie historique des savoirs humains repose sur une hypothèse forte, enfin, que j'ai énoncée dès le début, c'est-à-dire que les savoirs se définissent non seulement par leur contenu, mais aussi par les pratiques qui les produisent, qui les communiquent et qui les transmettent. C'est-à-dire que les savoirs sont considérés comme indissociables de savoir-faire, et nous les considérons donc comme des constructions sociales produites par des acteurs individuels ou par des communautés et parfois par des institutions. Donc ce processus de construction prend la forme de chaînes opératoires qui peuvent être spécifiques à un savoir particulier ou constituer un socle partagé entre différents savoirs à une époque donnée. Pour prendre un exemple, au XVIIe, XVIIIe siècle, les sciences, les humanités, le droit, la théologie même partagent un certain nombre de techniques identiques dans le recours à la bibliothèque, le recours aux commentaires, l'usage des livres, les pratiques d'écriture et des formes de référence culturelle qui remontent à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on a là un socle de pratiques partagées par différentes spécialités. Et bien entendu, à un certain moment, ces différents savoirs vont avoir des pratiques spécifiques, c'est-à-dire qu'à partir du socle partagé, ils auront donc des scénarios de travail plus spécifiques et adaptés à leur projet particulier. Donc, par chaînes opératoires, nous entendons donc des séquences de gestes articulés, orientés vers la production d'un savoir, ou plus précisément vers la production d'un artefact matérialisant ce savoir, parce que le savoir, c'est quelque chose qui est toujours matérialisé ou incorporé. C'est pas quelque chose que l'on respire ou c'est pas quelque chose que l'on croise. Le savoir est matérialisé dans des livres, dans des institutions, dans des bibliothèques ou dans des personnes, comme le personnage du savant, du professeur, du chercheur, de l'expert, etc. Donc cette matérialisation des savoirs peut aboutir à la création de textes ou de discours, de maquettes, d'objets techniques fabriqués, de résolution de problèmes, d'interprétation, de guérison d'une maladie, etc. C'est-à-dire à chaque fois, le savoir est matérialisé dans des gestes, dans des opérations ou dans des artefacts comme des livres ou une maquette. Donc cette jeunesse des savoirs, cette production des savoirs par des séquences d'opérations, nous considérons qu'elle joue un rôle fondamental dans la compréhension des savoirs, qu'il s'agisse d'un livre, d'une carte géographique, d'un tableau de statistiques ou d'un mandala tibétain, et que la réception même de ces différents objets, de ces différents artefacts, donnera elle aussi lieu à des pratiques et à des opérations. Donc il est évident que la fabrication d'une table en bois ou la préparation d'un plat cuisiné présuppose des savoir-faire, des instruments, des matières premières et une séquence ordonnée d'opérations avec des gestes, le maniement du matériel de cuisine ou de menuiserie. Ce savoir-faire repose sur un savoir codifié et partagé, tout en laissant un espace aux talents individuels et au fait que certains sont de très grands cuisiniers, tandis que d'autres, comme moi, font tout brûler et échouent chaque fois qu'ils veulent préparer un plat. Donc les séquences d'opérations, même si elles sont les mêmes, peuvent, dans certains cas, être réalisées avec beaucoup de talent et dans d'autres, être complètement ratées. Mais c'est là, je crois, un modèle finalement d'appréhension des savoirs qui peut s'appliquer non seulement aux savoirs techniques et aux savoirs pratiques, mais aussi aux savoirs les plus intellectuels et aux savoirs scientifiques. Donc il est vrai que je me situe, enfin, vous l'aurez sans doute repéré, dans la mouvance de ce courant représenté notamment par Bruno Latour et d'autres que l'on appelle la sociologie des sciences, et qui a consisté, il y a une trentaine d'années, à investir des laboratoires de sciences dures, avec donc des chercheurs qui étaient des sociologues ou des anthropologues, et à considérer que ces laboratoires, comme des tribus tout à fait étranges de la forêt amazonienne ou de la jungle de Bornéo, c'est-à-dire quand on n'est pas spécialiste du domaine, quand on ignore l'usage des instruments, quand on n'a aucune idée des enjeux des recherches qui sont conduites par cette équipe, les gestes, les opérations, les interactions entre les acteurs, le maniement du matériel, des équipements d'expérimentation, etc. Tout cela relève d'opérations, une séquence d'opérations qui sont presque comme les gestes et les pratiques des sorciers ou d'artisans dans des tribus très, très, très lointaines. Donc je caricature un petit peu, mais l'enjeu de l'anthropologie des savoirs, c'est effectivement, enfin de ce type d'anthropologie, c'est d'observer les acteurs et leurs lieux sans attacher immédiatement une importance cruciale au discours des acteurs sur leur propre pratique, ni aux résultats publiés de ce travail expérimental qui donnera lieu, par exemple, à un article, un livre ou d'autres. En l'occurrence, Bruno Latour a observé le laboratoire du professeur Guillemin à l'université de San Diego, qui devait obtenir le prix Nobel quelques années plus tard. Donc l'observation telle qu'elle est menée attache de l'importance justement à tout ce qui échapperait à un historien des sciences, c'est-à-dire les manipulations routinières, les interactions informelles, ce qui est réussi et ce qui est raté, les changements de protocole, la discussion sur la manière de procéder, tous les gestes techniques sur les échantillons, sur le réglage des instruments. Et là, on voit vraiment comment la science se construit à travers des opérations, à travers des échanges et des interactions extrêmement précis, et où finalement la découverte, les résultats, l'intuition géniale n'apparaissent pas comme cela par magie, mais sont le résultat d'un très long processus d'accumulation de données, de discussions, de négociations pour arriver à une conclusion. Donc ce type d'approche peut porter évidemment sur des laboratoires scientifiques où on peut observer les acteurs, les machines, les opérations, mais le projet des lieux de savoir finalement vise à transposer ce protocole d'observation et d'enquête au-delà du champ des sciences, au champ des humanités, des sciences sociales, des techniques, des arts et des savoirs spirituels. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, une salle de séminaire, le bureau personnel d'un chercheur, une salle de musée, l'atelier d'un artisan se prêtent à des modalités d'observation analogues où l'on pourra regarder l'environnement matériel, les pratiques, les acteurs et les modalités d'interaction. D'ailleurs, Bruno Latour, récemment, a appliqué les mêmes méthodes au Conseil d'État, en se faisant donc l'ethnologue d'un des lieux où le droit se dit en France. Et son regard de sociologues et d'ethnologues est complètement dépaysant et nous donne une vision du Conseil d'État qui n'est pas du tout celle que les membres du Conseil d'État ont de leur fonction ni de leur travail. Donc, vous voyez que l'histoire des savoirs et des sciences est souvent divisée en un courant internaliste et un courant externaliste. Le courant internaliste cherchant à suivre l'évolution, la vie propre des systèmes de pensée, des concepts, des théories, selon leur logique interne, leur logique propre, la marche vers le progrès, vers la vérité, tandis que le courant externaliste privilégiera l'environnement social, les institutions, l'environnement technologique, le contrôle du pouvoir politique et économique sur la science. Donc avec les lieux de savoir, on se situe quelque part entre les deux. On ne prend pas position. On intègre les données des uns et des autres, mais on choisit une voie médiane que l'on pourrait finalement nommer une génétique des savoirs ou une généalogie des savoirs à partir des séquences de pratiques qui les produisent et à travers l'observation des acteurs qui y sont impliqués. Alors, ce qui est possible par l'observation dans le laboratoire contemporain ou dans la bibliothèque contemporaine ne l'est évidemment pas pour les bibliothèques et les lieux de savoir du passé. Pourtant, j'aimerais bien pouvoir observer ce qui se passait dans la bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle de notre ère. Mais on est obligé, malheureusement, de faire avec les sources qui nous sont parvenues, avec ces médiations. Et dès lors, l'enquête a un double niveau, c'est-à-dire on essaye à la fois de retrouver ce lieu de savoir qu'était la bibliothèque d'Alexandrie, et en même temps on interroge ce que les sources nous en disent, ce que les sources de l'époque ont compris, ce qu'elles ont passé sous silence, les déformations et les orientations qu'elles ont pu donner à leur description ou à leurs allusions. Alors je voudrais conclure en ouvrant effectivement sur cette nouvelle étape du projet, transmission et efficacité des savoirs. Au fond, comment un artefact, comment un énoncé, comment un texte, un livre, un concept, une interprétation, livré par quelqu'un qui peut être autorisé ou non, comment cela va-t-il être repris par d'autres ? Comment cela va-t-il être investi d'autorité, de vérité? Comment va-t-on en venir à intégrer cette proposition, cet énoncé dans le corpus des savoirs partagés, des savoirs admis dans une époque? Et une fois que cet énoncé ou cette proposition seront validés, comment va-t-on les transmettre dans l'espace et dans le temps? Donc là, il y a un premier ensemble de questions qui tient à la validation sociale des savoirs, qui peut reposer pour les savoirs scientifiques sur le régime de la preuve, sur le régime de l'expérimentation, ou qui peut reposer pour d'autres types de savoirs sur le régime d'une vérité institutionnelle, d'une vérité révélée, ou encore d'une forme d'autorité institutionnelle, où c'est une certaine catégorie d'acteurs qui disent le vrai, puisqu'ils en ont le pouvoir, l'autorité et le statut. Et ce qui sera particulièrement intéressant à observer, c'est tous les cas de controverses, de désaccords, de négociations, de conflits entre des interprétations et des autorités différentes. Pour ce qui est de la transmission, il y a deux grands modèles. Deux pôles, si vous voulez. Le premier, c'est celui du livre, de l'écrit, et le second, c'est celui de l'apprentissage direct de maître à élève. Alors le premier pôle revient à réfléchir sur le pouvoir extraordinaire de ces objets, de ces briques, ces codex, qui ont parfois été des rouleaux ou des assemblages de bambou dans le monde chinois. En quoi cet objet, avec ses pages, avec ses inscriptions, a-t-il l'autorité, le pouvoir d'encoder un savoir, une réflexion, et de la réactiver quand lecteur l'ouvrira et se rentrera dans le fil de cette écriture. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un présupposé qui aujourd'hui nous permet encore de lire Homère, Aristote, Platon, Descartes, Kant, parce que nous estimons que, enfin, le monde dans lequel nous sommes reconnaît ce pouvoir extraordinaire du livre d'endormir une voix, une pensée, une réflexion à savoir et de les réveiller quand quelqu'un les lira quelques mois après ou plusieurs siècles après. Donc c'est là la première direction sur laquelle on va réfléchir en comparant le statut du livre à différentes époques, en Chine, dans le monde indien, en Occident, dans l'Antiquité, etc. Et le second type de transmission, donc, ce défi du livre, parce que d'abord, le livre va répondre de la même manière à tous les lecteurs qui vont l'interroger. Le livre ne sera pas adapté à vous en tant que lecteur individuel et en tant que personne avec votre propre histoire, votre propre trajectoire. Donc le livre livre un savoir impersonnel. Et en plus, le livre peut tomber dans les mains de ceux à qui il n'est pas destiné. C'est-à-dire qu'il peut divulguer un savoir qui peut être dangereux ou trop avancé, il peut tomber entre des mains mal intentionnées. Et aussi, le livre peut être détruit, parce que c'est un objet matériel. Et au temps du livre manuscrit, il suffisait qu'une bibliothèque de monastère brûle pour que l'on perde le seul exemplaire subsistant d'un texte grec ou latin. Mais à côté de cela, il y a la figure aussi du maître vivant. Alors c'est non seulement l'instituteur, le professeur, le maître artisan qui va former les apprentis, ce sont aussi tous les maîtres de vie, les maîtres spirituels, les maîtres philosophes qui accompagnent donc leurs étudiants et leurs apprentis pendant des années et parfois dans le cheminement de toute une vie. Et là, le travail que nous faisons actuellement consiste à décentrer radicalement les choses et à réfléchir sur ces questions fondamentales à partir de l'Afrique, mais aussi à partir de l'Extrême-Orient, à partir de l'Inde et à partir du Japon, des monastères zen. Et là, on se rend compte que nous sommes dans des cultures où le livre lui-même a très très peu d'importance. Ce qui importe, c'est la fréquentation d'un maître et l'itinéraire intellectuel que l'on peut, enfin l'itinéraire spirituel que l'on peut faire à ses côtés, un itinéraire long, patient, un itinéraire de vie, de fréquentation, d'humilité, où petit à petit on se défait de toutes ces illusions, de toutes ces prétentions au vain savoir, pour se rendre compte qu'on est soi-même à la fois celui qui apprend et celui qui enseigne, et que l'on est soi-même celui qui doit être transformé par le savoir en question, et qu'il s'agit finalement de se connaître soi-même et d'aller au plus profond de son âme et de son esprit. Alors de ces aventures extrême-orientales, à travers notamment des récits autobiographiques de moines, de maîtres spirituels, je retiens des situations extrêmement emblématiques où le disciple impatient va petit à petit comprendre l'importance du temps et comprendre également l'importance du silence. Et tel maître yogi cheminera dans l'Himalaya pour rencontrer de très grands maîtres spirituels, des gourous, et passera avec eux quelques jours simplement en silence, en méditation, sans qu'un mot, une parole ne soit échangée. Et lorsqu'il les quittera, il aura l'impression qu'il repart avec un savoir, avec une expérience, avec une profondeur qu'il n'arrivait pas au moment où il est arrivé. Et c'est un petit peu la même chose dans le monastère zen de la tradition Rinzai au Japon, où on peut venir pour une retraite de quelques semaines et on se trouve finalement embarqué dans une quête qui vous maintiendra pendant une dizaine d'années dans ces lieux. C'est-à-dire que vous deviendrez vous-même un maître spirituel. Et il faudra donc apprendre que le langage et la pensée rationnelle ne sont pas les seuls outils de connaissance et d'approfondissement. Il faudra apprendre la souffrance du corps dans la méditation assise. Il faudra apprendre l'immense patience devant un maître qui vous parle par énigme. et qui vous ferme toutes les portes logiques et intellectuelles qui vous permettraient de sortir de ces énigmes. C'est-à-dire que nous avons là des situations extrêmes de transmission, de communication, de partage des savoirs dans une tradition vivante de maître à élève qui constitue un horizon extrêmement révélateur pour réfléchir aujourd'hui sur la constitution et la transmission des savoirs dans nos sociétés occidentales. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était un petit peu un moment de réflexion et je suis très reconnaissant aux organisateurs de m'avoir permis ce travail de mise au point et pour reconnaître les failles, les défauts, les perspectives, les acquis de ce cheminement. Et je terminerai simplement en disant que malgré la difficulté des temps, malgré l'incompréhension dont on fait parfois l'objet auprès de nos instances politiques et des tutelles politiques, malgré la défiance en particulier pour les chercheur en sciences sociales et en humanité, je suis absolument convaincu de l'utilité fondamentale de ce type de recherche, même si on travaille sur le bouddhisme zen, sur Socrate au 5e siècle ou sur l'histoire de la science médiévale, je trouve qu'il y a une utilité, une actualité et une urgence encore aujourd'hui à creuser ce type de questions, non seulement parce qu'elles sont intéressantes en soi, et qu'elle mérite d'être travaillée par des gens qui y consacrent une partie de leur vie, mais aussi parce qu'elle nous parle de nous-mêmes, elle nous parle de notre monde où tellement de choses sont en train de bouger, le livre en train de bouger, la lecture, l'écriture, la mémoire, l'information, l'encyclopédie, le savoir. Donc voilà, je veux conclure sur cette conviction à la fois humaniste, volontariste et politique de l'utilité du savoir en sciences humaines, dans les humanités, également dans les sciences tout court. Voilà.
On a eu beaucoup de chance, en tout cas, de vous écouter ce soir. Et bon, je vous remercie parce que c'est vrai que ce sont deux énormes volumes, il y en a encore deux à venir et vous avez synthétisé, on a le droit, on a aussi la priorité d'entendre ce dont vous allez parler après. Je vais demander à la salle s'il y a des questions, parce que là, on a quand même, Monsieur Jacob vous a tendu quelques perches.
Une question assez plate pour commencer, mais enfin bon. La façon dont vous définissez les lieux de savoir, bon, ils sont pratiquement illimités virtuellement. Il faut bien que vous fassiez un choix. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce choix, finalement, enfin, choix, cheminement, choix.
C'est une très bonne question. Donc, je dirais qu'il y a, il y a effectivement une ouverture totale. Et en même temps, à un moment donné, il faut passer du possible au réalisable. Donc j'ai une sorte de comité scientifique avec des collègues spécialistes de différentes disciplines et à partir, disons, d'un plan d'ensemble, je les consulte en leur demandant qui serait la personne qui pourrait contribuer sur tel ou tel aspect. Connaissez-vous un auteur émergent ou un spécialiste incontestable? Enfin, le propre de notre enfin de ces livres, et de réunir à la fois de jeunes chercheurs juste sortis de la thèse et des professeurs beaucoup plus avancés. Donc je dirais qu'il y a un aspect, la manière dont on contacte des auteurs qui acceptent ou qui refusent, qui parfois ne rendent pas les textes, et il faut donc trouver un remplacement, que ça produit déjà un système de sélection et de... en même temps, ma réponse est sans doute trop facile parce qu'il y a, aussi sans doute des logiques de choix. Le monde chinois, par exemple, est bien représenté. L'Amérique du Sud, l'Amérique précolombienne ne l'a pas été dans le premier volume, mais elle est un petit peu plus dans le second. Donc voilà, il y a comme cela des... il y a aussi des communautés scientifiques qui simplement ne sont pas du tout intéressées pour participer à ce type de projet, ce qui peut exister, c'est-à-dire des gens qui disent non, nous, on a notre spécialité, on publie dans nos revues, dans nos collections, et on n'est pas intéressé par un projet généraliste comme celui-là. Donc peut-être que votre question me permet peut-être d'indiquer que nous réfléchissons à présent pour la suite du projet et pour une forme de nouvelle édition de l'ensemble, un dispositif qui permettrait d'agréger de nouvelles études de cas en ouvrant très largement le champ et le chantier selon les recherches enfin, de tout un ensemble de chercheurs au niveau international qui auraient donc un espace sur le web intitulé « Lieux de savoir » où il y aurait comme cela des constellations de textes et d'études de cas autour de noyaux problématiques. J'ai expliqué que, par exemple, dans le deuxième volume, dans l'introduction, j'ai dit que pour moi, l'un des textes qui m'ont le plus inspiré, c'est le livre d'une anthropologue française qui s'appelle « La cuisinière, la laveuse et la... et la couturière ». Et donc, c'est une enquête sur un village de Côte d'Or dans les années 70. Ça avait été publié chez Gallimard, c'est un livre d'Yvonne Verdier. Et donc, cette description du savoir de trois femmes qui sont en charge d'opérations extrêmement importantes dans la communauté villageoise, la cuisine, le lavoir commun et la couture, ça m'a fait comprendre tout un ensemble de choses sur la philosophie, l'épistémologie, les sciences exactes, la grammaire, etc. C'est-à-dire que ça m'a donné un modèle d'intelligibilité des savoirs extraordinaire. Donc je dirais que ce qui ne se trouve pas dans les volumes, ce n'est pas forcément... parce qu'on n'a pas voulu l'y mettre, mais c'est aussi parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Mais peut-être qu'un support numérique permettra véritablement d'ouvrir des perspectives même auxquelles on ne pense pas encore en ce moment.
Je me posais la question justement par rapport au numérique, de savoir, puisque vous avez parlé du livre et des difficultés du livre en ce moment, un tel ouvrage, même si vous avez dit qu'il n'était pas encyclopédique, relève quand même d'un travail encyclopédique. Et je voulais savoir comment le public l'avait ressenti, comment en le faisant, est-ce que vous avez pensé à la portée culturelle de votre ouvrage, qui est très, très original. Et je voulais vous demander aussi ce que vous pensez justement par rapport à ces transmissions et ces lieux de savoir. Quel est l'intérêt et quel est le danger justement des nouvelles technologies par rapport à ces projets-là? Est-ce qu'ils ne peuvent pas être perdus, complètement perdus dans quelque chose que vous n'arrivez plus à cerner? Ouais, voilà.
Pour la réception elle-même, j'ai des échos qui viennent d'horizons très très différents. Et donc c'est tout à fait étonnant. Ça peut venir du monde des ressources humaines dans les entreprises, dans de grandes entreprises qui disent mais vous nous invitez à réfléchir sur la manière d'articuler l'expérience de nos ingénieurs et de nos techniciens spécialisés qui ne parlent pas du tout le même langage et qui souvent ne se comprennent pas. Le monde des bibliothèques et de la documentation est aussi très... Il y a beaucoup d'échos et ce sont donc aussi des rencontres avec les étudiants en histoire des sciences, en anthropologie, en histoire, voilà. Alors pour la suite, pour dire les choses très, très, très franchement, c'est vrai que notre éditeur ne va pas continuer, l'éditeur papier, Albin Michel, dans la mesure où le coût économique de fabrication de ce genre d'ouvrage est considérable. Et malheureusement, les modes de diffusion du livre aujourd'hui sont des circuits très très courts. C'est-à-dire si en 6 mois, le stock n'est pas épuisé, ça part au pilon. on est dans une logique de crise. Donc disons qu'on envisage... Un modèle qui très volontariste, c'est-à-dire on voudrait essayer de porter les deux volumes déjà publiés et la suite sous forme numérique, avec un modèle d'open access, c'est-à-dire donc les textes en HTML seront accessibles gratuitement, ce qui est une manière d'éviter aussi tous les clivages entre ceux qui peuvent acheter ces livres, ceux qui ne peuvent pas, d'éviter les clivages nord-sud aussi, qui sont extrêmement importants. Donc open access et un modèle économique néanmoins de ce qu'on appelle le freemium, où les fichiers PDF, ePub et Mobi seraient vendus à l'unité, enfin à un prix très, très faible. Et il y aurait un troisième aspect qui serait une déclinaison pour tablette style iPad. Et donc là, nous recherchons des sponsors, s'il y en a dans la salle. Mais où l'idée serait voilà, d'offrir un environnement visuel et tactile tout à fait unique et approprié à ce type de livre. C'est-à-dire, je prends un exemple, on choisirait d'avoir une map monde, on relierait du doigt New York, Pékin en passant par l'Italie, et on aurait une traversée des quatre volumes des lieux de savoir avec les différents chapitres. Ou alors on aurait un nuage de mots-clés, on relierait manuscrits, scriptorium, Chine, Moyen-Âge, et on aurait là aussi comme ça une constellation de pages qui surgirait, c'est-à-dire que ce serait un dispositif très dynamique et où la lecture provoquerait de la pensée. Voilà, donc c'est un petit peu l'utopie.
C'est un peu l'utopie d'Albert Kahn.
Oui, oui, d'une certaine façon, sauf que je ne suis pas banquier. Et je n'ai sans
doute
pas...
Il avait de l'argent pour...
Je crois qu'il a...
Faire les archives du monde.
Oui, 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 absolument. Il y a un petit peu cet aspect-là.
Je trouve aussi.
Oui. Même si on n'a pas le... Albert Kahn s'était lancé dans ce projet avec le sentiment qu'il y avait un monde qui disparaissait et que donc il fallait le sauvegarder par la photographie, c'est-à-dire avoir une archive matérielle. Nous avons l'impression d'être à la jonction de deux mondes, voilà, et que c'est peut-être le moment justement aussi de réfléchir qu'est-ce qu'un livre, quelle est la responsabilité des chercheurs par rapport à la communauté scientifique et par rapport à la société, qu'est-ce que l'on peut apporter dans les réflexions actuelles, et le fait d'avoir une entreprise lourde comme celle-là porté sur support électronique, c'est aussi un moyen de légitimer les choses pour les plus jeunes qui sont confrontés à la notation de l'ARS et autres, où il faut tout ce qui peut légitimer, authentifier le savoir.
Parce que je pensais qu'il peut y avoir une contradiction entre le fait de faire des livres et après de passer justement à un support Internet, mais vous avez répondu à la question.
Si, je reprends la dernière partie de votre intervention. Merci pour votre intervention. Ça a semé le doute un peu dans certaines de mes convictions, mais ma question que je voulais vous poser porte sur, en gros, naissance, vie et mort des savoirs. Et si dans la transmission des savoirs, quel lien y a-t-il avec la démocratisation des savoirs, l'accès du plus grand nombre ? Ou bien si une simple élite, comme vous l'avez dit, une tribu suffit pour pérenniser un certain nombre de savoirs.
Oui, c'est une très bonne question. Et dans la démarche qui est la nôtre, on y répondra sans doute pas de manière frontale, mais on étudiera des situations de voir, par exemple, jusqu'à quel point un savoir peut s'adapter et à partir de quel moment ce savoir est complètement dénaturé. De voir un petit peu les mécanismes de survie ou d'adaptation que certains savoirs peuvent développer. Un des exemples qui me viennent à l'esprit, c'est la manière dont la philosophie grecque, en particulier la philosophie platonicienne, a pu s'adapter à des changements politiques, des changements d'école, de mode d'enseignement, à travers des reformatages et des restructurations, c'est-à-dire à un moment donné on s'est dit ces dialogues c'est vraiment ennuyeux, c'est trop long pour les étudiants, on va essayer de transformer ça en un exposé prosaïque organisée, première, deuxième, troisième, quatrième partie. Et donc, il y a eu un moment où, effectivement, on enseignait la philosophie platonicienne comme ça. Et ensuite, ça a été encore résumé, etc. Donc, jusqu'à quel point les professeurs et les élèves de ces écoles estimaient-ils qu'ils avaient encore affaire à la pensée platonicienne? Et à partir de quel moment estimerions-nous qu'il y a vraiment un hiatus et une perte? Et voilà. Donc, alors, un autre aspect de votre question, c'est certainement les modes de diffusion centrifuge du savoir et de la connaissance, c'est-à-dire dans tout un ensemble de cultures et de sociétés, le savoir est de l'ordre du privilège d'une caste. Alors, c'était les scribes en Égypte, les scribes en Mésopotamie, les quelques intellectuels grecs au musée d'Alexandrie. Donc, comment ce savoir peut-il... quels sont les scénarios qui lui permettent d'être diffusé? Là aussi, il faut voir le développement des écoles, l'effet d'irradiation des grands centres culturels qui font partir des livres, des professeurs, vers d'autres lieux. On a par exemple, dans la Grèce hellénistique, il y a un épisode où l'un des rois Ptolémée, l'un des rois égyptiens, à un moment donné, se met à persécuter les intellectuels à Alexandrie. Et donc tout ce qu'il pouvait y avoir de géomètres, de médecins, de philosophes, de lettrés, de grammairiens, du jour au lendemain, ils sont tous partis en exil. Ils ont pris le premier bateau en emportant leurs livres, leurs instruments, leurs textes, et ils sont allés dans toutes les îles de la mer Égée, en Asie mineure, etc. Donc là, il y a effectivement un essaimage du savoir produit par un événement historique. J'espère que nous pourrons, effectivement, dans ce troisième volume, étudier ce genre de scénarios qui sont effectivement tout à fait importants. Et aujourd'hui, il y a aussi toute la problématique des programmes scolaires et universitaires, c'est-à-dire comment délimite-t-on le champ de l'apprentissage, qui est-ce qui décide, sur quelle base, quelle est la liberté de manœuvre d'un instituteur ou d'un professeur. Ce sont des questions cruciales pour notre société.
Est-ce qu'il y a un équilibre entre les sciences et les sciences humaines dans votre...
Oui.
Est-ce qu'il y a des sciences dures, des disciplines qui ont refusé de participer?
Non. J'avais essayé à un moment d'associer très, très largement des professeurs du Collège de France, mais c'était sans doute une mauvaise période. Mais en revanche, oui, la physique contemporaine, la médecine, parmi d'autres, les mathématiques, oui, et d'autres sont bien représentés dans l'ouvrage, et souvent avec des chapitres tout à fait étonnants, des chapitres très, très réflexifs, c'est-à-dire que des scientifiques réfléchissent sur leur propre pratique. Et je pense au chapitre de Pablo Janssen sur la physique des nanoagrégats, où il raconte pour sa thèse... Son laboratoire lyonnais l'avait envoyé aux États-Unis, à Harvard, travailler dans un laboratoire spécialisé en modélisation informatique. Et donc, il fait son doctorat sur la diffusion des nanoagrégats. Et à un moment donné, il envoie son directeur de laboratoire à l'image d'une simulation. Et son directeur de labo lui dit nous avons travaillé avec des moyens complètement différents, avec des appareillages, des microscopes, etc. Et nous arrivons exactement à la même image. Donc c'est extraordinaire comme situation. C'est extraordinaire. Et ça pose la question du statut de la modélisation et de l'expérience et de cette rencontre où on arrive exactement avec le même artefact à la fin.
Oui, j'aimerais bien savoir, en fait, quand vous êtes parti sur l'idée de rechercher... les éléments qui amènent à la production de savoir, si ça vous permet en même temps de découvrir les éléments qui amènent à la production des erreurs, des contre-vérités, ce genre de choses-là, ou la versatilité de la vérité aussi.
Oui, vous avez raison. Je dirais que d'une manière générale, les lieux de savoir sont sans doute trop optimistes et trop positif peut-être par rapport au savoir, même si dans chaque volume, on a essayé de montrer l'envers de la médaille. Mais effectivement, cette question de l'erreur, du fourvoiement, intervient lorsque le statut d'un énoncé est mis en jeu et doit être validé par une communauté, par des autorités. Donc ce qui est intéressant, c'est les moments de basculement où ce qui est considéré comme hérétique ou comme une erreur va devenir une vérité peu de temps après. Hein. Et bon, il y a tout un ensemble, il y a évidemment ce qui s'est... Copernic, Galilée et beaucoup d'autres, ou encore l'astronome Percival Lowell qui observait les canaux martiens et qui a comme ça eu l'intuition mathématique de l'existence d'une nouvelle planète dans le système solaire, une planète invisible, et peu de temps après sa mort, on a découvert Pluton. Donc, oui, c'est... Le régime de vérité, erreur, c'est des objets pleinement historiques qui seront développés. Oui.
Merci. Je voulais vous demander, est-ce que dans votre projet, vous avez l'intention d'apporter une réflexion sur l'importance des rapports d'hégémonie, subalternité dans la construction des savoirs, justement ? Parce que je pense que ça pourrait aider à expliquer certaines choses que vous avez dit ce soir, qui pour moi était un petit peu assez incroyable d'entendre, par exemple, quand vous comparez les régimes de savoir, le régime de vérité local, avec, face à un régime de savoir universel, qui serait forcément l'européen, l'occidental. Il me semble que là, pour moi, c'est assez incroyable. Quand vous parlez, en disant caricaturé, qu'on peut faire des observations d'un laboratoire de science, et comparer avec l'observation d'une tribu en Amazonie, pourquoi ce serait si différent que ça? Puisque vous l'avez dit vous-même, il y a une construction sociale des savoirs. Donc pourquoi, et il me semble que l'anthropologie aujourd'hui met à plat justement ces différents régimes de savoir. Donc pourquoi parler d'un régime universel face à des régimes locaux? Je pense que le sens historique de l'anthropologie, ça peut-être le fait que là où vous êtes resté dans la perspective anthropologique, relève d'une anthropologie d'il y a un certain temps, une anthropologie évolutionniste qui...
Excusez-moi. Non, je pense pas. Non, mais j'entends votre critique et votre observation. Elle me donne à réfléchir. Mais bon, dans le cas des savoirs à portée universelle, nous nous situons dans des dispositifs. C'est pas quelque chose de philosophique. Ce sont des choses extrêmement concrètes et précise, ça va être par exemple le fait que dans les savoirs biologiques, on va fabriquer une race de souris blanches qui auront exactement la même taille, le même poids, la même densité, de façon à être sûr que les expériences faites sur ces souris seront les mêmes, quel que soit le lieu, le laboratoire où on se trouve. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous soyez à Montréal, Pékin, Melbourne, la nature même du laboratoire ou l'ancrage géographique du laboratoire n'importe plus sur le résultat de la science, enfin d'une expérience scientifique. Bon, je ne sais pas, évidemment qu'on ne met pas ça sur le même plan, mais... Ce sont en même temps des modèles et des configurations qui existent. Vous remettez en question le fait que des savoirs soient extrêmement locaux et que d'autres soient...
Je remets en question l'idée de supériorité, un peu de modèle plus évolué de ce qu'on présente en Europe, de la médecine occidentale. Pourquoi elle serait supérieure aux autres?
Ah ben, j'ai pas dit que c'était supérieur.
Bah, c'est un peu l'idée. Tout à l'heure, vous avez parlé des Paris, Melbourne, Pékin, et je ne sais plus pourquoi on n'avait pas, Johannesburg, Bamako. Il y a aussi des laboratoires.
Absolument. Oui. J'ai pris, comme ça, quatre lieux. Mais nous sommes tout à fait ouverts. à une critique, bien entendu, de l'anthropologie, de la linguistique, de la philologie, de l'histoire des religions. Enfin, quand au début dans la première moitié du XXe siècle, un professeur du Collège de France qui s'appelle Alphonse Dain dit « Nous avons mis au point la méthode pour travailler sur tous les textes, que ce soit les textes grecs, latins, médiévaux, chinois, égyptiens ou aztèques. » Il y a là un impérialisme et un désir d'universalité qui, évidemment, est de l'ordre du colonialisme, enfin d'un colonialisme scientifique. Et renversant cela, je dirais que maintenant, il y a des tendances qui visent à privilégier les savoirs décentrés, les savoirs de la périphérie. Je vous donne, par exemple, un exemple pour les études indiennes sanskrites. Pendant toute une période, les orientalistes européens sont allés en Inde, sont revenus avec des notes, ont fait des éditions imprimées au kilomètre, des dictionnaires, des grammaires, etc. Et depuis quelque temps, ils se rendent compte que sur place, il y a des intellectuels qui n'ont ni ordinateur, ni bibliothèque, ni quoi que ce soit, mais qui sont eux-mêmes des bibliothèques vivantes. Et donc, moi, j'ai des collègues, de jeunes collègues indianistes, qui vont passer des mois là-bas avec leur ordinateur et des textes, et qui travaillent donc en face à face avec des brahmanes qui connaissent ces textes par cœur et qui sont capables de sortir des variantes, des explications, des modèles. Donc, je pense pas que dans ce type de situation il y ait une hiérarchie qui serait complètement défavorable au savoir excentré. Tout le sens de notre entreprise, enfin, du moins je crois, vise à montrer ce que partagent les uns et les autres. Et même pour dire très, très franchement les choses, le projet s'est solidifié peu de temps après les événements du 11 septembre et les délires qu'il y a eu sur le choc des civilisations, où on a voulu apporter le témoignage de chercheurs dans le domaine des humanités et des sciences, disant ce qui nous rapproche est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Vous voyez, donc j'ai peut-être été maladroit dans mon exposé, mais j'entends votre critique et je serais peut-être plus prudent, plus précis. Mais je veux vous rassurer sur ce point. Il n'y a pas de... Voilà.
On va être obligé de s'arrêter, malheureusement. Je voulais vous demander si vous allez parler dans vos ouvrages sur Internet, l'Internet comme lieu de savoir.
Oui,
Êtes obligé d'aller jusque-là.
Oui, il est déjà présent dans les deux premiers volumes. Oui. C'est-à-dire, est-ce que l'Internet est matériel ou immatériel? Oui. Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est une typographie, une topographie? Est-ce qu'il y a des lieux sur l'Internet? Donc, bien sûr.
Merci bien, monsieur.
J'ai oublié de vous faire signer l'autorisation.
Ah, d'accord.
Ah oui, je crois que j'ai pris un crayon.